Fréquence protestante. La valeur de l'homme. Emmanuel Taïeb.
Le rêve dans les séries. Bonjour à tous et toutes. Les séries télévisées sont depuis un moment devenues des objets d'étude légitimes. Elles sont d'ailleurs de moins en moins télévisées puisqu'on les regarde sur bien d'autres supports que la télévision. La production américaine est particulièrement abondante. On parle de 455 séries diffusées en 2016 aux États-Unis, parmi lesquelles plusieurs dizaines de séries inédites. Cette explosion du genre est aussi une explosion de la fiction, souvent une fiction très élaborée, écrite par un showrunner, véritable auteur de la série et architecte du propos qu'il entend porter tout au long des saisons. Cela fait donc plusieurs années que les études sur les séries se multiplient dans toutes les disciplines universitaires, chacune entrant à sa manière dans cette matière fictionnelle, pour en explorer les figures, les thèmes, les motifs, les personnages, les dialogues, la musique et bien entendu la dimension sociale et politique. Mon invitée d'aujourd'hui, Sarah Atuel, a choisi d'entrer dans plusieurs séries de ces 25 dernières années à travers le rêve et les séquences oniriques portées par ces fictions. Pas nécessairement des séries de science-fiction, mais aussi des séries à vocation réaliste comme Les Sopranos. Car le rêve et ses avatars, c'est-à-dire toute plongée dans la subjectivité d'un personnage, opèrent comme une fiction dans la fiction. Le rêve autorise toutes les licences narratives que l'univers réel contraint. Mais il est aussi une voie d'exploration ou de présentation de tous les scénarios possibles que la série n'aura pas pu développer. À ce titre, les rêves enrichissent la fiction, la tirent vers le fantastique, vers des univers alternatifs, des plurivers, comme on dit, plus ou moins inquiétants, qui interrogent finalement la croyance du spectateur dans les images et sa propre place dans un monde fragile dont les apparences n'attendent que de se fissurer. Bonjour Sarah Atuel.
Bonjour.
Alors Sarah Atuel, vous êtes professeure de littérature et cinéma anglophone à l'Université du Havre, spécialiste de Shakespeare, mais aussi spécialiste des séries télé, notamment la série Lost à laquelle vous aviez consacré un ouvrage Lost, fiction vitale. Vous êtes également responsable de la revue en ligne TV/série. Votre dernier ouvrage s'intitule Rêves et séries américaines, la fabrique d'autres mondes. Il est paru aux éditions Rouge Profond en 2015. C'est pour lui et aussi pour le premier que je vous reçois aujourd'hui. Et Sarah Atuel, je voudrais qu'on commence par ce qui vous a donné envie, l'origine du projet de travailler sur les rêves dans les séries télé.
Alors, quand vous m'avez présenté, vous avez mentionné le fait que j'étais shakespearienne. Et en fait, j'ai un de mes ouvrages précédents s'intéressait à la présentation en série de Jules César, des pièces Jules César et Antoine et Cléopâtre. Donc, je me suis intéressée à ce qui se passait quand on jouait des histoires supposément écrites pour être jouées séparément. Qu'est-ce qui se passait quand on les jouer ensemble. Et j'ai commencé à m'intéresser à la représentation de Cléopâtre dans des séries télévisées, notamment Rome. Et de toute façon, j'ai baigné dans les séries télévisées depuis mon enfance. Et le saut s'est fait assez facilement. D'ailleurs, vous entendez sûrement parler de séries shakespeariennes. On qualifie beaucoup les séries de shakespeariennes maintenant.
Voilà, Game of Thrones
notamment, mais Lost aussi peut se lire comme une adaptation des romances shakespeariennes. Donc j'ai une approche des séries qui est influencée par ma discipline première, les études shakespeariennes, qui envisage aussi la réversibilité des niveaux de fiction et les imbrications entre rêve et réalité, qu'on pense à une pièce comme Le songe d'une d'été, où à la fin les personnages pensent que tout était un rêve, ou le personnage de Puck qui s'adresse à l'auditoire à la fin de la pièce en disant « Si vous n'avez pas aimé, imaginez que vous n'avez fait que rêver ».
Par exemple. Voilà. Donc l'idée, c'est aussi de dire, bon, les séries, je le disais en introduction, c'est maintenant un objet vraiment installé. On n'a peut-être plus besoin de s'en émerveiller comme objet simple, mais peut-être déjà de faire un pas de plus et de dire, on peut travailler une figure à l'intérieur des séries.
Absolument.
Et cette figure, par exemple, c'est le rêve.
Ça peut être l'approche par le rêve. Parce que grâce au rêve, comme vous le mentionniez au début, on peut fissurer la fiction, on peut jouer, on peut introduire du jeu dans la représentation. C'est un petit film dans le film qui permet tout les audaces sur le plan esthétique, narratif, idéologique même. Et j'ai étudié dans cet ouvrage la figure du rêve comme possibilité d'apporter des scénarios alternatifs ou de montrer toutes les bifurcations narratives possibles, les ratures du scénario, tous les plis hypothétiques en fait des
alors,
séries télévisées.
On en parlera. Un premier élément peut-être, c'est que ce qui est frappant dans votre ouvrage, c'est que d'abord il y a effectivement plein de rêves, plein de séquences oniriques, plein de séquences fantasmatiques, plein de near death experiences, d'expériences limites autour de coma dépassé. Il y a ce premier élément, mais ce qui est aussi frappant, c'est que ces rêves-là sont de moins en moins annoncés dans la narration, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de marqueurs, de ponctuation, de montage ou de fondu au blanc comme il y avait avant. Et donc ça implique quand même un spectateur un peu attentif, un peu habitué. Il y a quand même cette dimension-là.
C'est vrai, on va jouer avec les indices distillés pour les spectateurs qui vont guetter ces petits moments qui vont lui signaler plus ou moins la présence du rêve. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a un paradoxe dans la représentation du rêve. Parce que nous, en tant que rêveurs, quand on fait un rêve réel la nuit, on a l'impression que c'est vrai. On le vit vraiment, ce rêve. Et ce n'est qu'au réveil qu'on a l'impression que c'était totalement absurde, ce qu'on a rêvé. Et donc, quand on essaye de représenter un rêve de manière réaliste, entre guillemets, à l'écran, on se heurte à cette double temporalité du rêve. Parce que si je montre une réalité qui a l'air tout à fait banale, tout à fait anodine, on a l'impression, on reproduit la sensation de vivre le rêve comme quelque chose de réel, mais on enlève tout le côté absurde, et donc c'est pas vraiment un rêve, a posteriori. Mais si au contraire, on met plein d'éléments un peu fous dans cette séquence, esthétiquement parlant, par exemple, on ajoute des fantômes, on ajoute des situations totalement incroyables, là, on va tout de suite indiquer au spectateur qu'il s'agit d'un rêve et il ou elle ne va pas plonger dedans, ne va pas se dire, ne va pas se poser de questions dessus. Et c'est vrai que les scénaristes, maintenant, jouent avec les attentes des spectateurs et ce sont des spectateurs de plus en plus sophistiqués, habitués à ces jeux avec la fiction. Et bien sûr, on se joue un peu d'eux.
Oui, donc ils seront toujours dans ce petit moment suspendu en se disant, est-ce que ce que je suis en train de regarder est un rêve ou pas encore un rêve?
Voilà.
Pas vraiment.
Voilà.
Allez-y.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dès qu'on met un rêve, dès qu'on introduit une séquence de rêve dans la fiction, on indique que peut-être toute la série est un rêve. À partir du moment où on introduit ce doute, on va jouer en permanence sur la croyance en la fiction des spectateurs. Est-ce que je crois que ce que je vois est réel, entre guillemets?
Ça fragilise beaucoup la fiction en même temps. C'est-à-dire qu'on ne sait plus du tout comment la prendre, cette fiction.
Ça sape les fondements de la fiction. C'est un gros risque que prennent les showrunners, mais c'est un risque calculé. C'est un risque qui, justement, profite de la durée de la série pour en permanence faire se retourner les intrigues et jouer sur cette croyance des spectateurs.
Et ça complexifie beaucoup la narration. C'est aussi ça qui fait sans doute le succès ou la qualité de ces nouvelles séries. Alors je voudrais, Sarah Atuel, qu'ensemble on essaye de voir une ou deux fonctions ou rôles narratifs de ces séquences oniriques. Alors par exemple, une première fonction assez évidente mais qui est importante, c'est que ça permet d'entrer dans une subjectivité, dans la subjectivité d'un personnage, ce qu'on ne faisait pas nécessairement il y a quelques années ou quelques 30 ans. Quoi. C'est nouveau ça, on rentre dans la subjectivité.
Absolument, et ça apporte une complexité non seulement au récit mais au personnage. Et en rentrant dans la psyché d'un personnage qui à première vue peut être très doux, très sympa, et puis on montre un rêve où il ou elle devient un meurtrier, ça complexifie. Ça, c'est pas juste que ça annule la personnalité initiale du personnage, c'est juste que ça lui apporte une autre dimension.
Ça permet de filmer aussi des désirs latents ou des désirs inconscients de personnages. Vous donnez un exemple d'une série qui a eu son heure de gloire, qui est agréable, hein, qui s'appelle Clair de Lune, où il y a d'ailleurs un moment un peu shakespearien, si je ne me trompe pas. Alors tout le monde attendait une histoire d'amour entre les deux personnages, Bruce Willis et Cybill Shepherd, et puis elle venait pas. Et alors il y a eu un ou deux épisodes très particuliers. Dites-nous en plus,
tout
Sarah,
à fait. Et on trouve ce genre de rêve qui actualise, qui littéralise les désirs des deux personnages qui, normalement, on attend qu'ils soient ensemble. Mais le problème, c'est que si le couple se forme, alors il n'y a plus de tension narrative. Voilà. Et donc, les scénaristes peuvent parfois construire des épisodes sur l'actualisation du souhait des personnages, mais aussi des spectateurs, mais pour ensuite faire basculer cet épisode dans le fantasme, dire que c'était un rêve et que tout est à refaire. Et on trouve ce genre de scénario dans des séries aussi diverses que Drop Dead Diva, Ally McBeal, même une sitcom comme Who's the Boss, de Madame est servie. Voilà.
Il y avait des séquences comme ça. Donc ça permet en fait de, au fond, d'assouvir ou de donner à voir ce désir entre les personnages et ce que les spectateurs attendaient, mais sans casser la trame narrative principale.
Absolument.
Qui peut tenir. Autre élément, autre fonction, alors peut-être la plus importante, c'est la question du « et si », c'est-à-dire que le rêve ou la séquence onirique ou fantasmatique va proposer des alternatives au récit principal.
Ouais.
Qui ne sont pas nécessairement explorés, mais qui sont là proposés, qui sont un peu explorés à leur manière dans le rêve, mais qui sont au fond proposés aux spectateurs.
Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est la longue durée de la série qui permet ça. Parce qu'on peut très bien imaginer, vous savez, les séries sont des œuvres collectives. Il y a une writer's room, une salle d'écriture.
Avec plusieurs scénaristes.
Voilà. Ouais. Et on imagine très bien les débats. On imagine très bien des scénaristes dire « Ah, j'ai une excellente idée, là. Je vois très bien, on pourrait amener notre personnage. Ça serait un suspense incroyable. Ça serait un retournement de situation fabuleux. » Et on imagine très bien un autre dire « Oui, mais ça nous emmène trop loin. Ça nous emmène trop loin. Je vois pas comment, après, on peut continuer la trame narrative si on fait ça. » Mais l'idée est très bonne. Alors, qu'en faire ? On peut faire une séquence de rêve là-dessus. On peut utiliser les idées extraordinaires d'un scénariste pour le temps d'un épisode ou le temps d'une séquence, ou le temps même d'une saison. On se souvient d'Alas, mais ça, c'était un rêve a posteriori.
Oui, c'était pour là,
toute
pour
une
bricoler
saison,
avec
voilà,
le retour
faire
d'un des acteurs, un des... Patrick Duffy.
Voilà, exactement. Mais donc, vous voyez, il y a une échelle du rêve. On peut penser le rêve au niveau d'une séquence, au niveau d'un épisode et même d'une saison entière.
Donc ça permet au fond au scénariste de tout dire. On a quelques exemples, en tout cas des exemples que vous développez dans votre livre. Par exemple, alors je parlais d'une série réaliste parce qu'elle se veut comme telle, Les Sopranos. Il y a, je crois, un épisode et demi ou deux épisodes où le personnage principal, Tony Soprano, est dans le coma. Et il va se rêver une autre vie dont le statut n'est pas très clair. Il va se rêver représentant de commerce dans un hôtel avec des problèmes d'identité. Là, on est typiquement dans ce que vous décrivez, Sarah Atchuel, c'est-à-dire l'exploration à la fois peut-être d'un désir inconscient du personnage, d'une vie alternative dans un univers parallèle. Dites-nous en plus sur...
Exactement. On voit bien que on part d'un personnage, on le met dans le coma, on imagine ce qu'il peut rêver dans ce coma, mais ça permet... au niveau narratif, à la série, de se réécrire, de se réinventer, de se reformuler. On reste dans la série elle-même, mais on en propose une autre trame. Donc, on joue sur l'imagination des scénaristes, ça permet de renouveler la série pour les spectateurs qui pourraient un petit peu se lasser au bout de quelques saisons. Et donc, ça permet tous les possibles, justement, l'approche par le rêve.
Et en même temps, là, il y a aussi une plongée dans la psyché du personnage. C'est-à-dire qu'il y a d'autres séquences où il voit, par exemple, les hommes qu'il a tués, qui, au fond, reviennent le hanter. Donc, ça complexifie aussi. Ce personnage, c'est un bad guy. Et en même temps, il est taraudé par des formes de culpabilité.
Oui, et ça permet aussi d'introduire de la citation d'autres films. Parce que Tony Soprano est un spectateur assidu de télé et de cinéma. Et quand il rêve, non seulement il importe ce qu'il a vécu dans la vie réelle, et oui, on peut voir les tueurs qu'il poursuivait, mais il importe aussi ce qu'il a vu à la télé. Donc, on voit qu'il cite des phrases du Parrain, par exemple, où il voit des moines Shaolin qui lui rappellent la série Kung Fu qu'il regardait dans son enfance. Donc, on voit que Les Sopranos tient un discours merveilleux sur le fait que la fiction a un impact réel sur notre inconscient et que ce que nous voyons nous influence. Et je crois aussi que le rêve, les séquences de rêve, je vous disais, jouent sur la croyance des spectateurs, mais ça joue aussi sur le fait que très souvent, on peut entendre des spectateurs dire « Oh non, c'était un rêve, je me suis fait berner, j'ai perdu mon temps en regardant cet épisode puisque tout était faux. » Et les séries maintenant disent « Vous n'avez pas perdu votre temps. Le rêve agit sur le personnage, agit sur le récit. Tout ce que vous avez vu fait tout de même évoluer l'intrigue. »
Oui, d'autant que dans les nouvelles séries, les personnages ont une mémoire qu'ils apportent avec eux, qu'ils gardent d'épisode en épisode, alors qu'avant, on effaçait tout à chaque nouvel épisode. Donc, y compris ce qui a été rêvé, rentre dans la trame... fictionnel principal, en tout
exactement.
Cas.
Il y a un véritable tissage, un maillage entre la trame réelle et la trame rêvée.
Je voudrais qu'on écoute un court extrait de la série Six Feet Under, un moment où le personnage de Nate croise son père décédé et lui demande s'il est lui-même mort.
Do you believe that your consciousness affects the behavior of subatomic particles?
Am I alive or am I dead?
Do you believe that particles move backwards and forwards in time and appear in all possible places at once?
If I am dead. Is this heaven or hell?
Do you believe that the universe is constantly splitting into billions of parallel universes?
What the fuck do I care?
You only get one choice, so you may want to think about this.
Just tell me. Am I dead? Yes or no?
Yes. And no. Some places you're dead, some places you're alive, some places you never even existed. Possibly. Theoretically. Or who knows? This could just be the anesthesia talking.
La valeur de l'homme, les rêves dans les séries, nous sommes en compagnie de Sarah Atchuel. Alors on a écouté un petit extrait de Six Feet Under qui nous semble être, quand on a préparé cette émission, emblématique de votre propos.
Absolument.
Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cette courte séquence?
Déjà, présentons-la, elle apparaît en ouverture de la saison 3 quand Nate vient de subir une opération au cerveau. Et ce début, on a laissé Nate sur la table d'opération en fin de saison 2 et cette saison 3, quand elle commence, elle nous donne plusieurs issues possibles de l'opération. D'abord, on voit Nate mort, sa famille est éplorée et se prépare à l'enterrer. Puis, sans transition, on le voit en train de réapprendre, après des séquelles au cerveau, réapprendre à parler. Puis, sans transition, on le voit avec une femme et un enfant, avec une de ses maîtresses, et puis avec une autre maîtresse, avec un autre enfant. Donc à chaque fois, on explore une possibilité que Nate aurait pu choisir telle ou telle vie. Et finalement, Nate ne sait pas s'il est mort ou vivant. Il rencontre son père, qui est mort au début de la série. Donc on sait, quand Nate voit son père, on se dit, bon, il est dans l'au-delà. Et là, le père lui donne plusieurs solution possible à ce qu'il est en train de vivre. Voilà, dans un univers, tu peux être vivant, dans un autre, tu peux être mort, dans celui-là, tu existes. Peut-être que c'est juste une expérience de l'anesthésie sur la table d'opération qui te fait imaginer tout ça. Et vous voyez que là, la série reflète précisément une expérience de la pensée, une expérience théorique en physique quantique, qui est l'expérience dont tout le monde a entendu parler, celle du chat de Schrödinger, c'est-à-dire un chat placé dans une boîte fermée et on lui envoie un système qui
comme
pourrait
des
le
rayons,
tuer,
voilà,
mais qui un système qui est commandé par l'état d'une particule. Et tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, tant qu'il n'y a pas eu observation, on ne peut pas dire que le chat est vivant ou mort, puisque c'est l'observateur qui fixe l'état de la particule. Et là, la série explore cette possibilité de manière très concrète dans cette séquence. Et pour savoir s'il est vivant ou mort, Nate ouvre son propre cercueil. Et donc, il ouvre la boîte du chat de Schrödinger, visiblement. Et là, on découvre que Nate a survécu, qu'il a épousé telle femme et qu'ils ont eu tel enfant. Voilà. Mais à partir de là, vous voyez que les spectateurs vont constamment douter de la trame narrative choisie, ou en tout cas, ils vont la voir justement comme un choix. À partir de là, il n'est plus possible de voir la série sans se demander à chaque fois, mais peut-être qu'on va me dire que tout ça n'était qu'un rêve. Peut-être que Nate est parti lors de l'opération et que toute la suite de Six Feet Under n'est qu'un fantasme,
ouais,
qu'un coma ou une projection dans l'au-delà, on ne sait pas. Donc c'est sûr qu'on introduit du doute, on introduit du jeu dans la représentation, jusqu'à même imaginer, dans cette séquence qui est un peu longue, donc on n'a pas eu le temps de l'entendre, mais à un moment, Nate se voit la possibilité que son père ait eu une autre épouse et ait eu donc une autre version de Nate. Et cette autre version de Nate est jouée par un autre acteur, avec bien sûr la série qui interroge son propre casting. Qu'est-ce qui se serait passé si Six Feet Under avait été joué par d'autres acteurs ?
C'est très frappant, effectivement. Alors, il y a quand même un côté, à la fois l'indécidabilité des scénaristes, et en même temps, il y a un côté, Sarah Atchuel, très contentement. C'est-à-dire qu'on va vous donner, aux spectateurs, tout.
Oui.
On va vous donner toutes les versions possibles, et non pas une seule histoire qui serait frustrante, mais toutes les histoires.
Oui, oui. Et je crois que, par-delà ce désir de nous donner toutes sortes de possibilités, c'est aussi donner une responsabilité au spectateur, parce que c'est à lui ou elle qu'on donne la possibilité de choisir. On a une responsabilité parce qu'on peut se dire, Non, je n'y crois pas. Je pense que tout cela n'est maintenant que le rêve de Nate, proche de la mort. Et peut-être que je vais même arrêter de regarder la série. Ou au contraire, je trouve ça absolument fascinant. Je crois que Nate est vivant et je pense, je crois en la réalité de cette trame narrative. Et vous voyez que quand on décide cela, ça a un impact très important sur notre croyance en la fiction et en l'importance de la fiction. Parce qu'à chaque fois qu'on presse le bouton play sur sa télé ou son ordinateur, on choisit de faire confiance en la fiction, on se dit ça va m'intéresser, ça a du poids ce que je regarde. Et la série nous demande de faire ce choix toutes les 40 minutes ou les 50 minutes en fonction de la durée de chaque épisode.
Ouais, un choix sériel pour le spectateur. Sarah Tuel, vous le disiez au début de l'émission, les séquences de rêve permettent aussi aux scénaristes d'être transgressifs sur des questions idéologiques, sur des questions sexuelles. Alors donnez-nous quelques exemples de ces rêves transgressifs.
Par exemple, dans Grey's Anatomy, qui est une série qui est diffusée sur un grand network, ABC, on ne peut pas faire n'importe quoi, dire n'importe quoi dans Grey's Anatomy. Hein. Et pourtant, c'est une série très avant-gardiste et beaucoup plus progressiste qu'on ne le pense souvent. Rien que sur l'idée du rêve, il y a un rêve dans la saison, dans une des saisons 2 ou 3 où Meredith se réveille. Alors, on se dit, puisqu'elle se réveille, ça ne peut pas être un rêve, puisqu'elle se réveille. Et on la trouve au lit avec deux hommes. Derek Shepherd, dont elle est normalement très amoureuse, et puis un joli, gentil vétérinaire, dont elle n'était pas insensible à ses charmes. Et on la trouve au lit avec ces deux hommes, et finalement, cette séquence est révélée comme un rêve. Mais alors, les spectateurs un peu conservateurs pourraient se dire, ça va, les convenances sont respectées, puisque ce n'est qu'un fantasme, ce n'est qu'un rêve. Mais par la mise en image de cette séquence, on a vu quand même une femme avec deux hommes. Elle a été mise en image, elle a été présentée. Et donc, ça permet de tester des trames narratives un peu plus osées et de préparer les spectateurs à des séquences plus osées qui viendront cette fois s'inscrire dans la trame narrative.
De la même façon, dans une série, alors que qu'on présente comme légère, mais que moi, pour ma part, j'ai toujours trouvé assez sombre, qui était Desperate Housewives, il y a le faux suicide de l'un des personnages, de Lynette. Là aussi, ça va loin dans ce qu'il est possible de montrer dans une série, y compris une série un peu populaire.
Absolument. Dans cette séquence, Lynette n'en peut tellement plus de ses enfants qu'elle préfère la mort à continuer de s'occuper de ses enfants. Ça, c'est fabuleux sur une série, sur un grand network, à nouveau ABC. Ici, de montrer une séquence pareille, une mère qui préfère se tuer plutôt que de continuer à être maman. Et bon, alors bien sûr, cette séquence nous est révélée comme rêve, mais encore une fois, elle a été mise en image. C'est quand même assez fort.
Sarah Tuel, elle a quand même été montrée. Donc les scénaristes sont contents d'avoir pu placer, je dirais, leur idée.
Exactement.
Et en même temps, de revenir finalement à la trame narrative classique, qui n'est pas forcément hyper conservatrice, mais qui en tout cas est moins
subversive. Sur ce plan-là.
Ouais.
Absolument.
On est d'accord. Je voudrais qu'on écoute le générique d'une série matricielle, Twin Peaks. L'homme, le rêve dans les séries, nous sommes en compagnie de Sarah Tuel. Donc on a écouté un générique mythique de la série Twin Peaks, David Lynch et Mark Frost à la production, qui a été diffusé en 1990-1991 sur ABC. Série matricielle sur plein d'aspects, mais notamment sur celui qui vous intéresse, Sarah Tuel, c'est-à-dire la question du rêve ou la question de la contamination du réel par des univers alternatifs, par le mal. C'est ça, Twin Peaks.
Alors, ce qui est intéressant dans Twin Peaks, c'est que le rêve se retrouve être un endroit dans lequel on peut vraiment aller dans le monde réel. C'est-à-dire que Dale Cooper, l'agent du FBI, rêve d'une dimension hors du temps, d'une salle rouge, d'une salle avec un nain qui accueille des invités, notamment Laura Palmer, la jeune femme décédée. Et cette salle rouge, cette chambre rouge avec des rideaux de théâtre qui mêlent tous les médias entre théâtre, cinéma, télé, ça va se révéler un endroit que l'on peut dans lequel on peut se rendre si on se trouve à un certain endroit, un certain moment, etc. Donc ça pense le rêve comme pouvant être un endroit vrai.
Visitable.
Et surtout, un endroit hors du temps qui permet de penser la création de la fiction. Et on peut tout à fait envisager toutes les séries comme Battlestar Galactica, Lost, La Caravane de l'Étrange, comme des séries héritières de Twin Peaks, qui ont été comme mijotées dans la chambre rouge de Twin Peaks. Et ça m'a beaucoup intéressée de penser que des séries qui sont venues après Twin Peaks peuvent en fait nous permettre de mieux appréhender les mystères de Twin Peaks. Ces mystères que l'on tardera peut-être pas à comprendre un petit peu mieux, oui, puisque la série revient avec une troisième saison. Laura Palmer, dans le rêve de Dale Cooper, nous disait « Je vous verrai dans 25 ans ». Et nous y sommes.
Paris tenu. Et donc, il y a l'hypothèse, en tout cas dans votre livre, que peut-être qu'à un moment, ce personnage de Dale Cooper a été tué et que la suite de la série, à partir de ce moment-là, n'est au fond que son rêve. Et Lynch distille des petits indices pour nous dire peut-être que Dale Cooper est mort.
Peut-être que toute la série Twin Peaks se situait déjà dans un au-delà, à la manière des Flash Sideways que l'on peut voir dans Lost dans la dernière saison, ou même de ce qui est en ce moment expérimenté dans The Leftovers, avec cette dimension... peut-être pas un au-delà, mais une dimension hors du temps, où des personnages se retrouvent comme une dimension créée collectivement. Ça, c'est très important, ces séries comme Battlestar Galactica, Lost, La Caravane de l'Étrange, qui pensent le rêve comme un phénomène collectif. On se retrouve collectivement, qu'on crée collectivement. Ce qui nous ramène à l'idée de la série comme œuvre collective.
Vous suggérez à Sarah Atuel, et ce sera la dernière question, que, au fond, le rêve, c'est un moyen de dépeindre l'après-vie, dépeindre l'au-delà, dépeindre cet endroit étrange entre les vivants et les morts. Il y a quelque chose de métaphysique dans le rêve, alors?
Oui. En tout cas, la série pense le rêve de manière spirituelle et comme lieu de la rencontre également.
Une interzone, un lieu d'entrecroisement
De la rencontre et de la création fictive.
Donc le rêve est matriciel, c'est la matrice des fictions à venir, de toutes les fictions à venir.
Oui, et c'est par le rêve, les scénaristes qui ont toujours une idée de contrôle, de contrôler leur œuvre quand même. Et les séquences de rêve donnent l'occasion d'être très audacieux sur le plan esthétique, narratif, idéologique, de laisser libre cours à toute la créativité possible. C'est pour ça que les showrunners les aiment. Et souvent, ils n'aiment pas déléguer l'écriture du rêve. Ils la gardent pour eux. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que par le rêve, parce que, comme on l'a dit, ça sape les fondements de la fiction, ils donnent leur autorité au spectateur, puisque ça va être au spectateur, par la présence même du rêve, d'avoir à choisir leur propre croyance en la fiction.
Le rêve contrôlé. Merci beaucoup, Sarah Atuel. Cette émission s'achève. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Rêve et série américaine, La fabrique d'autres mondes, paru aux éditions Rouge Profond, collection Raccord en 2015. Merci à Emmanuel Demisco à la technique. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission. À bientôt. Baby, I believe that you're feeling fine. Shave my body, moan under a bad sound. With a blue moon in your eyes, so sing it now.
Woke up this morning,
got a blue moon,
got a blue moon in your eyes.
So you woke up this morning.
walked in a town. Get you one and a little one, but you got that shotgun shine, shake my body, bone in the red light, sound with a blue moon in your eyes.